Tout d'abord, merci pour cette invitation et je vous remets toutes les salutations de l'Église de Oui. On est très heureux de pouvoir être ensemble dans cette grande famille qui est la famille du Seigneur. C'est une joie de pouvoir vous voir et d'être avec vous. J'hésitais sur ce que j'allais aborder avec vous. J'étais parti sur un de mes passages favoris en Habacuc. C'est vraiment un prophète que j'aime beaucoup, qui a été déterminant dans ma marche avec le Seigneur. Mais j'ai dû lutter assez longtemps avec le Seigneur parce que lui avait d'autres plans pour vous. Alors à un moment, j'ai quand même dû lâcher et dire « ben oui, c'est quand même toi qui vas décider ». Donc on va partir autre part. On partira bientôt, je vous le dirai, dans quel passage. Il y a maintenant quelques années, quand j'étais encore à l'école secondaire, moi je suis bilingue en anglais, mon papa nous parlait en anglais, donc j'avais très facile dans les cours d'anglais. Et souvent, ben, quand venaient les interros, il y avait toujours quelqu'un qui voulait venir à côté de moi. Très souvent. Je ne sais pas pourquoi, là, c'était recta. Et bon, moi, je m'en foutais un petit peu, donc je laissais venir les gens à côté de moi, je laissais copier sans problème. Mais il y en avait qui se disputaient un petit peu, spécialement une certaine Zoé, parce qu'elle était nulle en anglais, elle ne pouvait pas en péter deux. Et à un moment, on peut se dire, tiens, est-ce qu'ils me suivent parce qu'ils aiment bien être avec moi, ou simplement pour m'utiliser ? Et on a pas mal de choses dans notre vie où on a ce dilemme. Est-ce que je vais juste être avec ou est-ce que je vais utiliser ? Et ça vient dans pas mal de choses de notre vie. On a pas mal d'objets chez nous. Ça, c'est un peu logique, on va les utiliser. On va avoir des membres de la famille. Ça peut être tendu. On a le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait avec lui aussi ? Aujourd'hui, on va un peu regarder à ces questions-là. Est-ce que je suis en train d'utiliser mon Dieu ? Ou est-ce que je le suis, tout simplement? Et ça vient dans la droite ligne de ce qu'Éric nous disait. Qu'est-ce qu'être un disciple? On a été appelé à être des disciples. Mais parfois, est-ce qu'on n'est pas en train simplement d'utiliser notre Dieu? On va regarder à cette question, tout simplement, que le Seigneur met devant nous dans certains passages. On va regarder ensemble au chapitre 21 de Matthieu. Et on regardera au verset 1 à 9. Alors, c'est vrai que c'est un passage que vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, mais il vaut toujours la peine de retourner dans la parole de toute façon. Il y a des merveilles à aller voir là-bas. Donc Matthieu 21, et on va regarder ensemble au verset 1 à 9. Durant la lecture, je vais vous demander d'essayer de remarquer trois actes que vont poser la foule. Il y a trois choses que la foule va faire, et je vais vous demander d'essayer de les trouver durant la lecture. On va regarder ensemble à Matthieu 21, les versets 1 à 9, qui nous disent ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera aller. Or tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Là, on a le contexte du passage. Vous avez reconnu le passage, hein, il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et là, vous allez pouvoir voir les trois actes que vont poser la foule, qui arrivent ici dans les versets 8 à 9. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Et on arrête ici notre lecture. J'espère que vous avez pu remarquer ces trois actes. Ce n'était pas bien compliqué à remarquer, mais j'espère que vous avez pu les voir. Sinon, ne le dites pas trop haut, personne ne vous regardera. Trois actes faciles à voir. Le premier, c'est qu'ils ont retiré leurs vêtements. Un deuxième, ils ont coupé des branches. Et ils les ont mis à terre, tout simplement. Et puis, ils ont cité des psaumes, ils ont chanté des psaumes. Et on va regarder à ces trois actes pour voir un petit peu, en fait, qu'est-ce qu'ils signifient réellement. Et qu'est-ce que la parole nous enseigne à travers cela. Trois actes qu'on va décortiquer ensemble. On va regarder au premier, les vêtements, tout simplement. Déjà, moi, j'ai toujours trouvé ça étrange. Hein. Je ne sais pas si vous, ça vous a jamais un peu semblé étrange que soudainement, les gens dans la rue commencent à enlever vos vêtements. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, vous promenez ici à Bruxelles, puis les gens commencent à balancer leurs vêtements devant vous. Je ne sais pas si ça vous arrive, oui. Ah oui, j'en ai vu dans le fond, là-bas. Mais c'est quand même assez bizarre. On se dit, tiens, Jésus, qu'est-ce qu'il a dû penser à ce moment-là? Peut-être qu'il s'est trompé d'entrer dans la ville, il est arrivé dans le club nudiste. Peut-être ça, non? C'est un peu bizarre. Il y a de ça quelques années, ma sœur et mon beau-frère étaient partis en vacances. Et mon beau-frère, il aime beaucoup de se promener. Ils étaient au bord de la plage. Donc, il dit à ma sœur, allez, on va faire, je ne sais pas, 1-2 heures et on marche sur la plage. Main dans la main, c'est un peu coucher de soleil, vous voyez un peu le tableau. Hein. Et puis, ils avancent. Et puis, à un moment, ils sont un peu étonnés parce qu'ils arrivent quelque part et il n'y a que des gens tout nus. Ils sont arrivés sur une plage nudiste. Il n'y avait pas de pancarte, il n'y avait rien. Et là, paf. Et on a parfois l'impression, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, je me dis, ben, c'est un peu ce que Jésus a vécu, en fait. Il arrive devant des gens et ils commencent tous à retirer leurs vêtements. Mais est-ce que c'est réellement ce que Jésus a vécu? On va regarder un petit peu à cela. Ici, ben, on est devant quelque chose d'assez étrange. Et quand on est devant quelque chose d'étrange dans la parole de Dieu, on peut soit faire semblant qu'il n'y a rien, dire, ouais, bon, hein, il y a des trucs étranges, mais ce n'est pas grave, on va faire semblant de rien. On peut faire comme s'il n'y avait rien d'étrange. C'est bon. Ou on peut le creuser. Aujourd'hui, ben, on va le creuser, vous vous en doutez un petit peu. Est-ce que Jésus s'est retrouvé devant une foule de gens tout nus? Non, ils n'étaient pas tout nus. À l'époque, on avait ce qu'on appelle le manteau et puis on avait une sous-robe. Et le manteau, si vous voyez, là, il y a une photo de la Rapacis à Rome et ça vous donne un petit peu l'idée de comment est-ce qu'ils étaient habillés. Donc on avait un grand voile, si vous voulez, qu'on liait autour et ça, c'est ce qu'on appelait le manteau. Donc c'est ce qu'ils sont en train de jeter au sol, le manteau. Quand on parle de jeter ses vêtements à terre, tout bon juif sait de quoi on parle. Tout bon juif, il est amené à un autre passage dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez directement eu la direction d'aller vers un passage dans la parole de Dieu. Là. C'est un peu compliqué hein, parce qu'on n'est on est vraiment pas des bons juifs. Même à oui, hein, je vous rassure, on n'est pas des bons juifs. Pas du tout. Mais si on regarde un passage de l'Ancien Testament, 2 Rois 9-13, il est question de personnes, et je vais vous le lire. Hein. Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompette et dirent « C'est Jéhu qui est roi ». Le contexte de ce passage, ben, on a Akab qui est roi en Israël et qui fait vraiment des choses horribles. Il amène le peuple à être idolâtre, il amène des fausses pratiques, il amène des faux cultes et il amène surtout ben, à se détourner de Dieu. Il amène la prostitution sacrée, il amène plein de choses vraiment horribles. Il a aussi sa femme Jézabel qui est connue aussi pour être tout aussi horrible. Si jamais les jeunes parents ne prenez pas Jézabel parce que c'est un nom qu'il y a dans la Bible, je vous rassure, ça ne passera pas. Ne le faites pas. C'est juste un conseil comme ça. Akab, on a cette personne horrible qui est là. Et puis, on a le serviteur qui arrive devant la tente des commandants de l'armée et il appelle Jéhu. Et il va oindre Jéhu comme le nouveau roi. Et puis, Jéhu va rentrer dans la tente des commandants et ils vont lui demander, tiens, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Et là, il va dire, ben, il m'a oint comme roi. Et eux, leur réaction, quand ils entendent parler d'un nouveau roi qui va régner, ils retirent leurs vêtements, les jettent à terre et disent, c'est notre roi. C'est lui notre roi. Rappelons maintenant le contexte dans lequel l'histoire qu'on vient de lire se passe. L'histoire où Jésus rentre à Jérusalem. Toutes ces personnes qui mettent leurs vêtements à terre. Qui règne en Israël à ce moment-là? Qui est la grande puissance qui règne? Rome, exactement. On a Rome qui est là. Rome, qu'est-ce qu'ils ont amené en Israël? Culte païen. Ils ont amené de la prostitution sacrée. Ils ont essayé par plusieurs fois de mettre des choses dans le temple. Ils ont tué des serviteurs de Dieu. Même chose qu'Akab. Hein. On est sur la même lignée. La même chose. Et puis on a ces gens dans la rue qui commencent à prendre leurs vêtements et à les jeter au sol. Ils sont en train de dire quelque chose. C'est un signe qui marque. Ils sont en train de dire « On s'est choisi un nouveau roi. » Et ça, c'est Jésus. On a choisi un roi. Ça veut aussi dire « On ne veut plus de ceux qui règnent. » Ici, on a un petit peu un bouillonnement. C'est un peu une idée contraire de ce qu'on a souvent de cette entrée triomphale. Mais on va voir si elle se concrétise dans le reste. En plus de cela, quand on enlève ses vêtements, il y a une deuxième signification à cela. Non seulement il y a ceci qu'on appelle un remez, hein, c'est une pratique juive. Un remez, c'est on fait une citation d'un passage, que ce soit par l'oral ou de façon dans les actes. Donc ici, ils ont fait un remez à travers ce passage. Mais il y a encore autre chose. Voici ce qu'un commentateur dit. L'enlèvement des vêtements dans le monde antique prévient d'un événement imminent qui va être dramatique, c'est-à-dire sanglant, et très émotionnellement chargé. Par exemple, si on prend des lectures de l'époque, hein, on regarde par exemple à ce que Platon a dit. Il dit ceci, Platon. « Socrate, dit-il, après avoir dit ces mots et fait ces déclarations, tu dois t'attendre à être attaqué par une grande multitude de nos hommes qui, écoutez bien, enlèveront leurs vêtements, prenant la première arme qui leur tombe sous la main, étant ainsi prêts à faire couler le sang. » Dans les temps anciens, quand on enlève ses vêtements, ça indique un pas décisif vers une action qui va être dramatique. C'est un peu comme à l'heure actuelle, hein, si vous regardez un match de boxe. Souvent, quand les deux champions vont rentrer, ben, ils ont un espèce de peignoir sur eux. Et quand le match va commencer, qu'est-ce qu'ils font avec ce peignoir? Ils l'enlèvent. Pareil dans les cours de récré, hein, généralement, on ne se bat jamais avec sa veste. Hein. On la tire. C'est quelque chose qu'on connaît. On le connaît aussi. Moi, j'ai souvent peur parce que ma femme, elle est souvent en peignoir chez nous. Alors, il y a des fois que je ne suis pas rassuré quand même. Hein. Donc, enfin bon, priez pour moi. Mais dans la Bible, on a la même chose. Hein. On a la même chose. Si on regarde la Bible elle-même, elle nous le dit. Quand on regarde à Étienne, en acte 7, qu'est-il dit au verset 58? Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et puis ils l'ont lapidé. Ensuite, on peut voir, par exemple, hein, l'arrestation de Paul à Jérusalem. Acte 22-23, qu'est-ce qu'il dit? Ils poussèrent des cris, jetèrent leurs vêtements et lancèrent de la poussière en l'air. Ils voulaient de nouveau lapider Paul. Un acte sanglant. Qu'est-ce qui se passe juste avant? Ils jettent leurs vêtements. Quand, dans l'ancien monde, on retire ses vêtements, ça signifie qu'on est prêt à faire couler du sang. La foule, elle n'est pas juste là pour acclamer. Hein. C'est pas comme si le roi passait dans la rue et qu'on est tous heureux. Non. La foule, elle est en train de dire, on s'est trouvé un nouveau roi et on va faire couler du sang pour notre nouveau roi. Il y a un vent de révolution qui est en train de souffler dans la ville. Ils déclarent que Jésus est le roi qu'ils se sont choisis. Ils enlèvent leurs vêtements. Ils sont prêts à se battre. Mais Jésus, c'est vrai, ils le choisissent comme roi dans leurs termes, hein, pas dans les termes dans lesquels Jésus vient. Ils veulent d'un roi qui vient débouter les Romains, qui va monter une armée, qui va s'asseoir sur le trône de David, qui va rebâtir les frontières d'Israël. Hein, ils veulent de ce roi-là. On va voir si c'est ce que Jésus veut, lui. Vous imaginez un peu cette ambiance dans la rue, hein. C'est chaud, hein. Il ne faut pas grand-chose pour que ça éclate. Il faut un tout petit soupçon et ça éclatera. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième signe que la foule va poser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des branches. Et si on regarde en Jean 12, verset 13, il est question de branches de palmier. Nous, ça nous semble tout à fait logique. Hein, des branches de palmier. D'ailleurs, on appelle comment le dimanche où généralement on prend ce texte-ci? Le dimanche des rameaux. C'est tout à fait normal. Nous, en tant que chrétiens, on n'imagine pas le premier dimanche sans les rameaux. C'est normal. D'ailleurs, si vous avez déjà fait peut-être des scénettes avec les enfants à Pâques, généralement, ils vont rentrer avec quoi? Des rameaux. C'est comme ça, c'est associé. Pâques, les rameaux. Est-ce que ça vous semble bizarre? Pas du tout. Maintenant, pour un juif, c'est un non-sens total. Ça ne devrait pas être le cas. Un juif, non. Est-ce que vous connaissez les trois grandes fêtes juives? On a la Pâque, on a la fête des tabernacles et la fête des semailles. Ça, c'est les trois grandes fêtes juives. En réalité, dans la Pâque, on ne va jamais utiliser les branches de palmier. Jamais. On ne l'utilise pas là. Elle est utilisée dans une autre des grandes fêtes, la fête des semailles. Pourquoi? Simplement parce que quand on prenait une branche de palmier et qu'on la secoue, ça fait comme le bruit de la pluie qui tombe. Et donc, en faisant cela, on demandait à Dieu d'amener la pluie sur les semailles, tout simplement. mais c'était jamais utilisé à Pâques. Alors, là, on est devant un choc culturel. La Bible nous amène devant un choc culturel. Normalement, on devrait dire, tiens, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce qu'ils prennent des branches de palmiers, là? C'est un peu comme si vous alliez aux États-Unis, et là, on vous invite à aller jouer à un match de foot. Génial! Ne demandez pas à Paul, ne lui dites pas que je l'ai dit, mais il n'est pas assez fort, hein, ne lui dites pas. C'est entre nous. Rappelez-lui que la dernière fois, je l'ai battu aussi, ça c'est bien. On vous invite à une partie de foot. Et là, vous mettez votre équipement, hein, vous avez votre tenue, vous mettez votre maillot, prenez vos crampons, vous mettez vos chaussettes hautes, vos jambières. Puis vous arrivez sur le terrain et eux, ils sont équipés pour du football américain. Ça ne va pas être terrible, hein. C'est un peu la même chose. Les branches de palmiers n'ont rien à voir avec Pâques. Comme un joueur de foot va se faire complètement retourner par des joueurs de football américains. Ça ne devrait pas être le cas. Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël, vous pouvez remarquer que c'est un peuple qui a souvent été conquis, dominé, asservi. Très souvent. Par qui est-ce qu'ils ont été asservis? Ça commence avec l'Égypte. L'Égypte, c'est un des premiers. On a eu la Syrie, Babylone, les Perses, les Grecs, les Médo-Perses. Et après les Grecs, on va avoir les Séleucides. Hein, c'est un des grands généraux sous Alexandre le Grand qui va prendre ça, mais on ne va pas s'emballer là-dedans. Durant la première domination séleucide, on va avoir un événement qui va arriver, ça s'appelle la révolte des Maccabées. Vous avez déjà entendu parler de la révolte des Maccabées, en 175 à 140 avant Jésus-Christ. Et on va avoir un événement marquant là. Vous allez avoir un passage du livre de Maccabée, un apocryphe. Il n'a pas valeur de... Ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça nous donne des repères historiques. Si vous lisez un moment, il va dire qu'ils rentrent dans la ville et qu'ils sont accompagnés de branches de palmiers. Ça, c'est après avoir eu la victoire sur les Séleucides, avoir défait les Séleucides du pouvoir, eh bien, ils vont rentrer avec quoi en main? Des branches de palmiers. C'est tellement clair pour les gens de l'époque que la branche de palmier symbolise la révolte et la victoire militaire, que lors de la seconde révolte des Juifs, ils vont frapper une monnaie, et vous allez la voir, ils vont frapper une monnaie avec comme effigie une branche de palmier. C'est un signe qu'ils connaissent. Ils savent que quand on sort une branche de palmier, ça signifie révolte, ça signifie du sang. On est dans cette même ligne. Ils sont prêts à faire couler le sang. Ils ont choisi un nouveau roi, ils ont mis leurs vêtements, ils prennent les branches, ils veulent la liberté. On a une foule qui est dans les rues de Jérusalem, qui ont commencé à retirer leurs vêtements, qui ont choisi leur nouveau roi et qui veulent en découdre. Et ce deuxième signe va exactement dans la même ligne. Et on va avoir ce troisième signe, les chants qu'ils prennent. Ce n'est pas des chants pris au hasard, hein. Pour bien comprendre ce qui se passe avec ces chants, il faut regarder dans leurs chaussures ce qu'ils signifient. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est une célébration de la libération du peuple d'Israël de l'asservissement en Égypte. C'est la libération d'un pouvoir oppressif sur eux. C'est ça la Pâque. Hein? La Pâque, c'est Dieu qui vient libérer son peuple. Lors de la Pâque, on avait l'habitude de chanter le Hallel égyptien. Le Hallel égyptien, c'est des psaumes qui sont compris entre les psaumes 113 à 118. Et dans ce Hallel égyptien, qu'est-ce qu'on entend? On entend comment Dieu a démoli les Égyptiens. Comment Dieu a donné la grande victoire sur les Égyptiens. Et c'est ce qu'ils vont chanter durant tous les temps de festivité de la Pâque. Et il y a une vérité, c'est que nos chants révèlent notre histoire. Nos chants révèlent ce qu'on est en train de vivre. Quand j'étais plus jeune, j'avais un iPod, maintenant... On n'en parle plus, hein, c'est vachement, vachement, vachement loin. Mais quand tout allait bien, ben j'écoutais du hip-hop, j'écoutais du rap, et voilà, ça allait bien. Quand ça n'allait pas, là, j'étais sur du mélodramatique à fond la caisse. Si vous preniez ma playlist à ce moment-là, les chants que j'écoutais, vous saviez ce qui se passait dans mon cœur. Pareil, à l'heure actuelle, hein, quand tout va bien, on prend des chants, chrétiens ou pas, mais qui sont très joyeux. Et quand ça ne va pas trop, ben là, on est plutôt sur des chants très calmes, où voilà, on a besoin d'être un peu rassuré. Mais quand on regarde dans leur histoire, c'est pareil. Les chants qu'ils vont prendre, ici, ils vont citer le psaume 118, verset 25, qui va notamment dire, et ça on l'entend, hein, « Hosanna ». Ça, c'est un mot qui signifie « Dieu sauve nous ». Certes, ils sont en train de crier « Dieu nous a sauvés des Égyptiens ». Mais qu'est-ce qu'ils crient aussi ?« Dieu sauve nous des Romains ». Dieu sauve nous des Romains. Ils sont en train de chanter la gloire de la libération passée pour appeler Dieu à refaire une libération présente. Les Romains, ils étaient conscients de ça. Vous savez, à Pâques, juste avant la semaine de Pâques, qu'est-ce qui se passait ? Le gouverneur romain déménageait de Césarée maritime, il venait faire résidence dans la forteresse Antonia. Et avec lui, il prenait toute la légion des Romains qui était stationnée à Césarée de Philippe. Donc, au moment de la célébration de Pâques, on avait deux légions de soldats romains à Rome. Ça fait 2000 hommes, hein, c'est énorme. Au moment de Pâques, dans le temple, entre chaque colonne, on avait un soldat romain qui écoutait les discussions. Pour qu'à la seconde où un petit vent de révolte éclate, une légion déboule dans le temple. Ils savaient très bien qu'au moment de Pâques, c'était un moment de bouillonnement de révolte. D'ailleurs, toutes les grandes révoltes d'Israël ont commencé quand ? À Pâques. Toutes. C'est assez exceptionnel de voir ceci. C'est extrêmement chaud. Il faudrait simplement que Jésus dise « Prenez les armes et c'est fini, c'est la guerre. » Il suffit que Jésus accepte leur plan et c'est la guerre. Si Jésus choisit de bénir leur plan, ça y est. Ils ont les branches de palmier, ils ont jeté leurs vêtements et ils sont en train de chanter des chants qui poussent Dieu à se manifester et à libérer son peuple. On est devant un vent de révolte. Ils ont choisi un roi, mais un roi comme ils l'imaginent, comme ils le veulent, comme ils le désirent. Un roi qui va rentrer dans leur plan. Et qu'on se le dise, c'est quand même pratique d'avoir un roi qui sait multiplier la nourriture si on ne doit jamais être assiégé. Hein. Quand même pratique. Pas pour rien que quand il le fait, ils veulent le mettre roi déjà à ce moment-là. On a une foule qui est prête à couronner son roi. Et d'ailleurs, si on regarde à ce moment-là, Jésus suit le plan. Il monte à Jérusalem, monté sur un âne, c'est annoncé. Il va monter jusqu'au temple. Et là, ils attendent simplement quoi ? Qu'il s'asseye sur le trône de David. Mais ce n'est pas ce que Jésus va faire. Jésus ne va pas faire ça à ce moment-là. Jésus va bifurquer du plan qu'eux ont prévu. Vous voyez, cette foule, elle veut utiliser Jésus. Elle veut l'utiliser pour ses plans. Mais Jésus, il appelle à le suivre, pas l'utiliser. Et c'est la question devant laquelle je nous mets. Est-ce que moi, j'utilise Jésus ou est-ce que je le suis ? Est-ce que je suis dans cette foule ou pas ? Qu'est-ce que je fais de Jésus ? Parce que oui, on vient le dimanche matin et c'est top. Mais pourquoi est-ce que je viens ? Pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle je viens ? Est-ce que je viens pour suivre Jésus ou pour l'utiliser ? Tant que Jésus va dans la direction où je veux aller, je le suis, pas de souci. Bénis mes projets, alléluia ! Mais dès que ça... Ah non, 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 là, je ne veux plus de ce Jésus. Là, non, ça va, crucifie-le. Crucifie-le, il n'y a pas de souci, crucifie-le. Non, non, il ne veut pas aller dans notre... Non, crucifie-le, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je fais de Jésus ? Tant que Jésus est amour, tant que Jésus me laisse faire mes petits arrangements sur le côté, ouais, je le suis, pas de souci. Hein. Allez, on continue ensemble. Mais au moment où Jésus commence à parler de justice, d'obéissance, c'est pas pour moi ça, c'est pas mon Jésus ça. Est-ce que je suis Jésus ou est-ce que je l'utilise ? Je cherche la femme, l'homme de ma vie. Et je sais que si je suis Jésus, ben je vais trouver des gens bien. Donc tant que je suis dans cette recherche, je vais suivre Jésus. Tant que Dieu me donne des enfants ou le succès de mes enfants, je vais le suivre. Mais si jamais... Je marche derrière Jésus parce qu'il peut me guérir physiquement. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une dame dans mon église qui me disait... Est-ce que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui ? Oui, oui, tout à fait. Et puis elle me dit, Ben moi, je viens ici pour ça. Elle utilise. Elle utilise. Elle n'a pas encore compris que Jésus veut qu'on le suive. Et s'il le veut, il peut guérir. Ça, c'est lui qui décide. Mais ce qu'il demande, c'est de le suivre. Et en soi, toutes les choses que j'ai citées, ce n'est pas des mauvaises choses. Hein. C'est bien la famille. C'est bien le succès. C'est bien la guérison physique. C'est bien toutes ces choses. Mais mal placées, elles sont une idole. Mal placées, elles sont mauvaises. Si elles sont la raison pour laquelle je suis Dieu, pas que je le suis, hein, tracassez pas, pour laquelle je marche derrière lui, alors elles vont être problématiques. Parce que sachez bien une chose, Dieu ne va jamais vous donner le désir de votre idole. Jamais. Dieu ne donnera jamais votre idole. Il ne la donnera pas. Par contre, si vous lui donnez votre idole, là, Dieu peut même vous le rendre encore plus grand. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ou pas, hein, ça c'est lui qui décide. Quel est ton plus grand désir à toi? C'est quoi ton plus grand désir? En posant une autre question, je vais essayer de te donner une idée de peut-être ce qui serait derrière. Quelle est la chose pour laquelle tu pries le plus? La chose pour laquelle tu pries sans cesse. C'est quoi cette chose-là? Si tu imagines le paradis, quelle est la chose qui vient en premier dans ton esprit? C'est quoi? Est-ce que je ne fais que de demander à Dieu dans mes prières sans jamais l'adorer? Est-ce qu'à aucun moment je ne désire être devant mon Dieu dans ma prière? Ou est-ce que je viens simplement lui dire, tiens, voilà, il me faudrait ça, et si tu veux, tu peux me mettre un cadeau en plus? Est-ce que ma relation avec Dieu, c'est juste une transaction? C'est juste moi qui viens comme client et de toute façon, c'est lui qui paye, donc dans tous les cas, c'est bien. Est-ce que ma vie de prière, il n'y a pas de place pour l'adoration? C'est important hein, de s'arrêter et de réaliser ça. Ce n'est pas des questions faciles. Hein. Et je le sais. Je sais bien que je vous ennuie, mais c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a voulu que je vous apporte ça. Hein. Bon, vous vous arrangez avec lui, hein, moi. Est-ce que tu prends le temps de louer Dieu avec la musique? Je ne parle pas d'avoir un bruit de fond. Hein. Moi, je l'ai souvent, ça, le bruit de fond. J'ai mis de la louange, donc c'est bon. Ben oui, si on met de la louange, on est bon. Mais est-ce que vous prenez le temps d'être dans la louange? Ou est-ce que simplement, on peut le faire, hein, réciter des paroles machinalement, c'est très facile. Hein. Je suis sûr que vous pourriez vous retourner dans les prochains chants, vous connaissez les paroles, pas de souci, vous pourriez le faire. Mais est-ce qu'on est présent à Dieu dans la louange? Est-ce que c'est un moment où on est devant notre Dieu? Ou est-ce que c'est le moment où on se dit, tiens, elle n'a pas mis l'écharpe que je lui ai offert? C'est quoi ce moment-là? C'est le moment où on peut... Où est-ce qu'on est fixé sur Dieu? Je sais que je suis dur, hein, mais c'est important. Parce que je vais vous dire une vérité, aucun utilisateur de Dieu ne sera présent au paradis. Il n'y aura que des suiveurs, que des disciples. Alors si jamais tu dois réaliser aujourd'hui que tu utilises Dieu, c'est important. C'est plus qu'important. Quand tu imagines le paradis, qu'est-ce que tu veux le plus retrouver? Est-ce que c'est Jésus ou pas? Alors, c'est un peu... Hein, bon, on est tous des très bons chrétiens. Hein. Il n'y en a aucun d'entre vous qui va me dire « Non, non, ce n'est pas Jésus que je veux voir. » Je le sais. On est tous des très bons chrétiens. Maintenant, sincèrement, est-ce que c'est peut-être de retrouver un être cher qu'on a perdu? D'être libéré du péché? De retrouver la santé? De ne plus souffrir? Il y a plein de choses, hein. Et si on est sincère, c'est des choses qui sont très attrayantes. Mais quel est le premier désir le plus ardent? La chose qui vraiment fait palpiter mon cœur? Quelle est la chose après laquelle on court? S'il y a quelque chose qui est plus grand que le désir de rencontrer Dieu face à face, il faut se poser les questions, tout simplement. Il faut se les poser. Se dire, ben tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à remettre en ordre là dans ma relation avec le Seigneur? Un des livres qui peut vous aider là-dedans, et je vous le propose, c'est le livre « Les idoles du cœur » de Timothy Keller. Très court, qui va au point. C'est vraiment un livre qui vous aidera à voir certaines des idoles qu'il pourrait y avoir dans votre cœur. Si vous désirez aussi parler du péché avec vos enfants, et ça c'est une chose merveilleuse je trouve, hein. Je parle de vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, les enfants du voisin, j'en ai rien à cirer, mais des enfants. De toute façon, il vaut toujours mieux d'amener l'évangile devant les enfants, c'est toujours un bon conseil que je peux vous donner. Un livre qui peut le faire, c'est le livre favori de ma grande-fille qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Arlo et le très gros camouflage. C'est un livre qui nous permet d'amener l'évangile devant nos enfants, qui nous permet de leur parler de comment est-ce qu'on nettoie le petit cœur. Et après, on peut avoir des discussions assez exceptionnelles avec nos enfants. Comment est-ce qu'on peut laver ce petit cœur? Et je vous invite à aller près de votre libraire pour acheter ces livres-là. C'est un bon investissement, ne vous tracassez pas, dans tous les cas. Tous ces désirs qui sont là, et je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Moi j'ai très envie de revoir ceux que j'ai perdus. Hein. J'ai très envie, ça va... Hier, ça faisait un an que j'avais perdu une de mes grand-mères, mais j'ai très envie de la revoir. Très, très. Mais le désir principal, c'est celui qui habitait ma grand-mère aussi, voir Jésus. Ça, c'est la première chose. Après, ben, je vais pouvoir être heureux parce que je vais pouvoir la voir parce qu'elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Oui, c'est différent de juste vouloir la revoir, elle. Mais je veux la revoir parce que j'ai mis ma foi en lui et elle aussi. Le premier désir, c'est lui. Et c'est bon d'y réfléchir. Peut-être que tu te rends compte aujourd'hui que tu n'es peut-être pas vraiment en train de suivre Jésus. Que peut-être tu l'utilises au final. Ben, Jésus n'est pas là à t'attendre avec le fouet. Hein. Je vous rassure, il n'est pas juste derrière la porte là. Bon, peut-être qu'on va envoyer quelqu'un quand même vérifier, mais normalement il n'y est pas. Non, il n'est pas là, je vous rassure. Jésus nous invite tout simplement. Si peut-être il a parlé à ton cœur, il t'invite simplement à revenir à lui. Il te dit simplement, ben, reconnais que t'es pécheur. Reconnais qu'en toi vit le péché. Le péché, c'est quoi? C'est pas le fait d'avoir tué 15 personnes. Hein. Je sais bien qu'il y en a qui en a tué 14 ici, donc c'est ça que j'ai dit 15. Mais c'est pas ça. C'est simplement le fait de ne pas vouloir écouter Dieu. C'est d'être rebelle contre Dieu, tout simplement. Quand Dieu dit ça, c'est bien, ben nous on dit, oui, c'était bien à l'époque, mais maintenant, on est quand même un peu plus intelligent qu'eux, on sait bien que oui, peut-être que les faibles, eux, ça n'irait pas, mais moi, je peux quand même. C'est ça le péché. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est rien de plus. Et ça, on l'est tous. C'est de reconnaître qu'en nous habite ce péché-là. Et que ce péché a des conséquences. Des conséquences ici-bas. Hein. Des conséquences ici-bas, ben, on n'a pas de relation avec Dieu. Vous imaginez, regardez non-stop votre TV, c'est comme ça que vous vivez. Elle est toujours en noir et blanc. Ça, c'est une vie sans Dieu. Une vie avec Dieu, c'est de découvrir que, en fait, la TV en couleur est disponible. Et même la 3D. Ça, c'est une vie vécue avec Dieu. On voit les mêmes images, hein, mais autrement. Ça, c'est la vie avec Dieu. Et c'est une des conséquences qu'il y a à ne pas appartenir à Dieu. Et puis, il y a des conséquences éternelles. Les conséquences éternelles, c'est que ben, on va vivre loin de Dieu là aussi. Et ça se résume en un mot, hein, l'enfer, tout simplement. Pas un chouette mot, pas un mot à la mode, mais un mot qui est vrai. L'enfer, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a pas de présence de Dieu. Tout ce qui est beau, vous oubliez. Tout ce qui est bon, vous oubliez. Ah oui, pas de chocolat en enfer. Hein. Non, il n'y a pas de ça. Tout ce qui est drôle, il n'y a pas de ça. Tout ce qui est délectable, tout ce qui est gracieux, non. C'est l'horreur sur l'horreur sur l'horreur sur l'horreur sur l'horreur. C'est tout. Ça, c'est l'enfer. L'horreur sur l'horreur sur l'horreur. Vous savez, et c'est dur ce que je vais dire, hein, mais même dans les camps de concentration, c'était un pâle reflet de ce que va être l'enfer. Parce que là encore, on pouvait entendre les chants. Parce que là encore, on pouvait entendre éclater des rires. Parce que là encore, il pouvait y avoir de la joie. En enfer, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais il y a une solution. Il y a une solution et cette solution, elle porte un nom. Jésus. C'est la seule solution qui existe. Oh, vous pouvez essayer n'importe quoi, hein, mais elle vous décevra. Le seul qui ne décevra pas, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui a toutes les caractéristiques nécessaires. Non seulement il a toujours accompli la volonté de Dieu, il n'a jamais failli à la volonté de Dieu. Il n'a jamais péché. Il est 100% homme et 100% Dieu. Lui le seul a rassemblé cela, a donné sa vie pour nous. Mais si ça s'arrête là, si tu t'arrêtes là, ça ne compte pas pour toi. Si à aucun moment tu n'as dit « Seigneur, viens dans ma vie, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, paye pour moi. » Si tu ne l'as jamais fait, oh, tu le sais, mais si tu n'as jamais arrêté le cours de ta marche pour te mettre derrière lui, alors tu ne lui appartiens pas. Et c'est important de réfléchir. Peut-être que tu viens depuis 20 ans, peut-être que tu sais tout ça. Mais vous savez, le fait que je sache comment une Ferrari se pilote ne veut pas dire que je saurais en piloter une. Déjà, j'en ai pas. Le fait de savoir qui sauve ne sauve pas. Il faut s'arrêter devant lui et lui demander de nous sauver. J'espère que vous l'avez fait. On peut choisir d'utiliser notre Dieu ou de le suivre. Il y a de cela quelques années, j'étais au Rwanda pour un voyage missionnaire. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il y a des Rwandais dans la salle, je vous donne toute mon affection et toute ma sympathie dans ces moments très pénibles où il y a ces 30 ans du massacre. On était là-bas et il y avait un homme qui se faisait appeler un évangéliste. Il était là, il était avec nous, il était dans les campagnes d'évangélisation, très extraverti, très bien habillé. Et cet homme-là ne cherchait qu'une chose, la renommée. Quand il partageait l'évangile, qu'est-ce qu'il disait ? Les femmes, vous ne devez pas avoir de grand décolleté. Ça, c'est l'évangile. Ouais. C'était un homme qui utilisait Dieu pour lui. J'ai bien peur de son sort. Mais réfléchissons à ce que nous soyons en train de suivre Jésus et pas de l'utiliser. Je vous laisse avec cette question. Est-ce que je suis Jésus ou est-ce que je l'utilise ?